Actu SF, les podcasts.
Bonsoir à tous, merci d'être ici pour les résistants de cette grosse journée. Nous avons la chance de pouvoir passer une petite heure ensemble au coin du feu dans l'atelier de Beb Dum. Donc merci à toi Beb de venir partager ton savoir. Tu vas nous présenter d'une manière un petit peu historique ton travail, si j'ai bien compris. Et donc j'imagine que dans la salle il y aura des questions. Donc n'hésitez pas à lever la main lorsqu'il y a une image qui vous interpelle ou une question qui vous vient. Et est-ce que dans la salle il y a des dessinateurs ? Ah, il y a quelques mains qui se lèvent. Donc on pourra peut-être parler de Photoshop ou d'autres petites bricoles de ce genre-là pour égayer cette soirée. Donc on est ensemble une heure, comme si on était au-dessus de l'épaule de Beb Dum lorsqu'il travaille. Et on va pouvoir écouter tout ce qu'il a à nous dire sur toutes ces longues nuits de travail passées sur son ordinateur ou à l'époque sur sa feuille de papier, l'aérographe et tout ça, quoi. Donc l'historique. Merci à toi. C'est parti.
Bah, je sais pas, je pensais faire une petite revue de ma carrière, entre guillemets. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai eu un flash à 15 ans avec le premier numéro de Métal Hurlant. Et notamment Moebius, qui était en couverture et à l'intérieur aussi, et qui m'a vraiment motivé pour rentrer dans la carrière. Qu'est-ce que je peux dire ? Donc, j'ai fait une école d'art à Paris, et puis quand j'en suis sorti diplômé, j'ai contacté Métal Hurlant, et puis j'ai commencé à travailler pour eux, en fait, très vite.
Donc je vais t'embêter en même temps que tu discutes. Lorsque tu dis que tu avais été tout de suite séduit par Métal Hurlant, est-ce que ça veut dire que tes désirs de dessinateur, c'était tout de suite dans le monde de l'imaginaire ? Lorsque tes petits dessins sur les cahiers de maths, ça concernait déjà ce type d'évasion ?
Oui, c'est une évasion, évasion graphique. Et puis Moebius, il me disait que tout était possible, en fait, quand... graphiquement et dans les histoires, quand on voit les histoires de Moebius, ça ni queue ni tête, ou enfin il fait ce qu'il veut, il est graphiquement, et ça m'a indiqué une voie de liberté d'expression, quoi.
Donc là, les premiers travaux qu'on va voir, ils sont faits comment, en fait ?
Les premiers travaux, c'est de l'aquarelle, des encres, de l'aérographe et des rehauts de gouache. J'ai bossé comme ça pendant presque une quinzaine d'années. J'ai sorti quelques bouquins aux humanoïdes associés, dont tout ça, en fait. Certaines histoires sont parues dans Métal et d'autres non, mais tout est sorti dans mon premier bouquin qui s'appelle l'album. Je continue dans ce sens-là. Voilà, ça c'est un édito pour Métal. Et puis j'ai commencé à faire des couvertures, pas mal. Quand j'ai publié mon premier... Enfin, juste avant de publier mon premier album, en fait, Alain Bachou m'a contacté pour faire sa pochette de disque. Et du coup, je lui ai demandé une préface pour le bouquin aussi. Enfin, c'était génial. Voilà. Alors là, on a à gauche le dessin que j'avais fait. Et puis, entre-temps, il a changé de maison de disque. Et le dessin de gauche avait été accepté, mais entre-temps, il a changé de maison de disque. Et ils ont réutilisé le visuel et ils ont pris juste le visage et en noir et blanc, ce qui était assez beau, en fait. Je préférais cette...
Est-ce que c'est le fait d'avoir commencé chez Metal qui t'a amené directement, par exemple... dans un univers qui était beaucoup plus, qui concernait plus la presse et je dirais un petit peu la musique à l'époque, plutôt que l'édition elle-même, en fait. Parce que même si il y avait les humanos et autres, mais le fait de faire des couvertures de livres, pourtant ton esthétique pouvait s'y prêter.
Ouais, ouais.
Tu n'es pas passé par là, quoi.
Non, finalement. J'ai parallèlement à la bande dessinée, en fait, j'ai contacté des magazines pour faire de l'illustration, en fait, plus alimentaire, parce que la bande dessinée c'était des clopinettes à l'époque, c'était payé des clopinettes. Et donc parallèlement, j'ai toujours mené une carrière personnelle et un travail personnel et un travail plus alimentaire pour la presse, plutôt pour la presse magazine, un peu pour l'édition, pour la publicité, mais plutôt pour la presse magazine.
Voilà. Donc là, pour resituer, c'est dans les années 90.
Ouais, ça c'est la première image que j'ai faite justement en illustration. On m'a proposé de faire la couverture et une double page intérieure pour l'expansion. Alors c'était en 94, voilà, c'était.
Et dès tes premières images, en fait, on voit vraiment une esthétique ultra personnelle, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences, quoi, de, je sais pas, quand tu étais jeune, qui t'a marqué? Est-ce que il y avait vraiment des dessinateurs qui t'ont, au moins inspiré en tous les cas, parce que je trouve que tu as une esthétique qui est tout de suite très forte, très identifiable. Et que tu as continué à maintenir, en fait, donc, ce qui n'est pas forcément
je sais pas,
évident.
Avant la découverte de Metal Hurlant, je ne me rappelle plus trop. Bah, je lisais de la bande dessinée, qui était des Fumetti à l'époque, des petits magazines. Mais graphiquement, c'est vraiment Metal et surtout Moebius qui m'a donné une impulsion, quoi. Juste avant de rentrer aux arts appliqués, en fait, donc, aux arts appliqués, bah, ça n'a fait que renforcer cette... Ça, c'est un édito pour Nitro à l'époque, un magazine automobile. Voilà, j'ai travaillé pour Sex Machine. Je sais qu'il y a Benoît Delépine qui est là, ou peut-être qu'il est parti, mais j'ai bossé pour Dionnet et Manœuvre. En fait, Dionnet bossait pour Canal. Et... Bref, je continue.
Ça, c'est... Si vous avez des questions, hein, sur l'époque, sur... cette époque des dinosaures.
C'est une affiche aussi pour un petit éditeur à l'époque qui s'appelait Art Moderne. J'en ai fait quelques-unes. Ça, c'est toujours des encres, de l'aérographe, des rehauts de gouache, en fait.
Allez, une question au premier rang. Je te coupe, hein, excuse-moi, mais ouais. En fait, moi, le problème, c'est que je m'aperçois que je connais toutes tes images, en fait. C'est un truc de malade. Donc, tu as dû être beaucoup plus influent que ce que tu pensais. Enfin, bref, on va laisser parler le monsieur.
Oui, bonsoir déjà. Non, je voulais savoir après la taille de ces toiles, en fait.
Ça, c'était pour moi, c'était gigantesque, en fait, mais c'était pas terrible. Ça devait faire, je pense, 50 cm à peu près. Mais sinon, j'ai toujours travaillé assez petit, hein, en A4. Ou mes planches de bande dessinée, elles étaient assez grandes au départ, mais très vite, j'ai réduit parce que c'était un boulot de dingue.
Est-ce que tu as conservé tes originaux de l'époque, ou est-ce que ça
oui, j'en ai
aussi,
beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont partis en vente, mais il m'en reste pas mal. Oui. Ça, c'est pareil, c'est aussi pour le même éditeur, des affiches, en fait. C'est un triptyque. Un Spirou, en fait, on m'a demandé un hommage à Spirou pour une galerie belge, et puis j'ai fait un Spirou en 1988. Ça, ça fait partie de mon deuxième bouquin, en fait, que j'ai fait aux Humano avec Jean-Pierre Dionnet au scénario. Le bouquin a été traduit un petit peu en allemand. Ça, c'était le métal espagnol, en fait. Je faisais aussi des couvertures qui passaient. Ça, c'était l'Escape britannique. Un métal hurlant espagnol aussi. Après, je me suis embarqué sur un troisième bouquin qui s'appelle Bureaucratica, et où j'ai fait. C'était des courtes histoires, en fait, sur l'univers de la bureaucratie, très influencé par Kafka à l'époque. Voilà. Finalement, je passe toutes les images. Ça fait partie aussi d'un autre bouquin que j'ai fait chez Albin Michel. Ma vie est un bouquet de violettes. Ça, c'est un bouquin plus personnel, sur plus des images et un texte, en fait. Je cherchais toujours une forme de narration graphique qui soit originale, et donc J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai fait des trucs un peu bâtards. Encore. D'ailleurs, les ventes s'en sont toujours ressenties parce que j'ai jamais pu vivre en fait, de ce travail.
Encore une question.
Oui. C'est Remois. Plus une remarque, en fait, ça me fait un peu penser au travail de Liberatore. Je me souvenais plus du nom, mais je l'ai cherché du coup. Et j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même période et qu'on est dans le même esprit pour le coup.
Liberator, ouais, pour moi c'était un peu plus tard, mais c'est vrai que bah, son Rank Xerox, c'était un choc aussi, quoi, visuel et surtout graphiquement. C'était, il utilisait des feutres à l'époque, c'était aussi dingue, quoi. D'ailleurs, je suis passé au feutre pour bureaucratiquage, c'est au feutre en fait. C'est vrai que la technique aussi a un petit peu évolué, c'est-à-dire que j'ai commencé par les aquarelles et je suis passé aux encres, c'était plus facile que les aquarelles. Et je suis passé au feutre parce que c'était plus facile que les encres. En fait, j'arrivais à avoir des veloutés, des dilués plus simplement. Et puis finalement, le numérique s'est imposé parce que c'était encore plus simple d'avoir des rendus géniaux avec le numérique. Mais là, on est toujours en traditionnel, en fait. Bah, voilà. Ça, c'est le même bouquin, Surgir de l'ombre. Et à un moment, j'ai été contacté par un éditeur japonais pour faire un manga. Donc je suis parti au Japon. Ça a été aussi une expérience fondatrice, finalement, d'où est sorti Mondial, en fait, de ces résidences-là en 95 à peu près. Donc j'ai fait un manga pour un éditeur japonais qui a été traduit en français chez Casterman, qui s'appelle La théorie des dominos. Et c'était très influencé par ma découverte en fait, du Japon. En fait, quand j'ai découvert Osaka, par exemple, un quartier qui s'appelle Namba, c'était dingue parce que c'était Blade Runner en vrai, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est toujours dingue.
Est-ce qu'avec ton esthétique, justement, quand même très architecturale, est-ce que tu as aussi travaillé, par exemple, pour le décor de film ou des choses comme ça à l'époque ?
Pas trop, non. Moi, jamais. Non, non. Ça n'a jamais vraiment abouti, non. J'ai fait des tentatives, mais non, non, non.
Et tu avais, est-ce que, à l'époque avant les réseaux sociaux, tout ça, donc est-ce que tu avais des relations aussi avec d'autres illustrateurs, à part ceux de Metal Hurlant en fait, puisque tu as quand même eu un parcours ensuite sur des tas d'autres supports, quoi, en fait. Ouais.
Bah, pas trop en fait, hein. Non, à part la presse magazine et l'édition de bande dessinée, non, j'ai pas eu tellement de. Il me semble pas. Bon, ça, c'est la couverture japonaise et puis la couverture française. J'ai fait quelques petits boulots au Japon pour un éditeur japonais aussi, une couverture, pour trouver un petit peu des tendances qu'on voit dans Mondial. J'ai fait un peu de pub aussi. Là, je ne vais pas faire de publicité. On a reconnu le personnage, non ? Mais bon.
Je crois, je ne sais même pas si ça existe toujours. Mais...
Tu me parlais de support, bah, j'ai fait quelques affiches de films, mais pas beaucoup, Muriel notamment. Toujours un peu de pub. Ça, c'était pour Philips. Ça, c'était un boulot vachement intéressant avec Jean-Baptiste Mondino, qui est un photographe plutôt de pub, et qui faisait des clips Kodak à l'époque. Et j'ai réalisé les personnages pour qu'ils soient modélisés en fait en 3D. Et parallèlement, donc j'ai toujours fait de la presse magazine, une couverture pour l'IB. Bon, ça c'est du perso.
Là, on est toujours en traditionnel.
On est toujours en traditionnel, mais là, ça va exactement. Là, ça bascule. Là, je suis dans le numérique, en fait. Et curieusement, c'est un des premiers boulots que j'ai fait pour Libération, et ça parlait d'une grève de. Sur les machines, sur les ordi en fait. C'était curieux parce que je me mettais à l'ordi et je devais illustrer un peu ça en fait.
Et alors comment tu parce que tu vas pas réussir à expédier ce problème en deux mots. Tu dis je me suis mis à l'ordi. Donc comment ça s'est fait en fait
parce J'ai que... eu beaucoup de mal à passer parce que moi et la technique je suis pas du tout technicien et ça me rebutait. Il y avait un dessinateur à l'époque qui avait démarré qui s'appelle Frédéric Beltran. qui s'était mis déjà à l'ordi et il m'avait montré des choses, ça me fascinait. J'étais très intrigué, très intéressé, mais j'osais pas passer le pas. Je me suis dit, j'avais peur de la technique, de l'ordi, et j'ai mis quand même quelques années avant de. Et un jour, je me suis lancé, en fait, et sans formation. J'ai acheté un ordi, l'ami Beltran m'a un peu expliqué, et puis j'ai démarré, en fait, et j'ai essayé de répondre tout de suite à des commandes avec l'ordi. Donc, ça pour Libération. En fait, on voit que c'est un peu maladroit, la chemise est un peu raide, mais en fait, j'étais forcé d'avancer parce que j'avais des commandes alimentaires auxquelles répondre. Mais bon, je ne vous raconte pas que j'ai quand même poussé des cris, parce qu'au départ, c'était terrible, quoi.
Et pour parler du métier lui-même, par exemple, quand tu parles des commandes, par exemple, à l'époque, tes demandes vis-à-vis de la... venant de la presse, par exemple, c'était de l'ordre de combien de commandes par mois, enfin, comment ça se passait, en fait, parce qu'il y a des images, j'imagine que tu les livrais en 3 heures et d'autres où tu pouvais passer une semaine, peut-être, je ne sais pas.
Le numérique m'a permis de pouvoir travailler plus rapidement et répondre à des commandes, comme pour les unes pour Libération. Ils nous appelaient le matin pour rendre le dessin à 6 heures le soir, quoi. Donc on avait 4-5 heures pour rendre un dessin. Et moi, en traditionnel, je pouvais pas. J'en ai fait, hein, j'ai commencé quand même, mais j'étais toujours. C'était affligeant, quoi. Alors qu'en numérique, je pouvais répondre en 3 heures. Et puis surtout. Très vite, j'ai eu une banque d'images, donc personnelle, c'est-à-dire qu'on retrouve là. D'ailleurs, tout ça vient de toutes ces années-là. D'ailleurs, je peux mettre la prochaine. C'est une image pour Le Monde, et je ne sais plus ce que ça illustrait, mais en fait, très vite, j'ai eu des bouches que je pouvais réutiliser, des yeux que je pouvais réutiliser quand j'avais une urgence. Et Mondial en est finalement l'aboutissement, parce que c'est un métissage, c'est une hybridation des éléments. J'ai bossé beaucoup pour Télérama, dont un hors-série. Ça, c'est une couverture pour Télérama aussi. Et donc tout ça, c'est en numérique. Ça, c'était pour le Japon. Une couverture pour Libération aussi. Ça, c'est du Libé. J'ai fait un petit bouquin qui s'appelait Éloge de l'amour, mais ça, c'était avec une compile de dessins traditionnels. Là, par exemple, on parlait du feutre avec Liberator, c'est du feutre. Donc, c'était l'époque un petit peu avant le numérique. Donc, tout ça, c'est mon petit bouquin, Éloge de l'amour. Alors, il y a un mélange, ça c'est par exemple c'est du numérique, c'est l'époque où j'ai basculé en fait, où il y avait encore des choses tradies et des choses digitales.
Et lorsque tu conçois tes images, parce que là on voit des mélanges d'images, donc noir et blanc, couleur et autres, ton approche de la couleur elle est comment en fait? Tu dessines en couleur ou est-ce que tu vas travailler en noir et blanc et ensuite passer des filtres couleur ou des calques couleur, des choses comme ça?
Au départ,
par rapport à Photoshop aujourd'hui par exemple.
Au départ je faisais la couleur qui devait être à l'arrivée en fait, et puis maintenant il y a tellement de possibilités que je sais que même si je mets un sépia, je vais pouvoir le rendre, ça va pouvoir devenir un bleu, donc je me soucie moins de la couleur au départ. Je sais que je vais pouvoir y travailler quand l'image sera aboutie, donc le numérique permet des tas de... Ça c'est par exemple, c'est une commande pour, du ministère des Affaires étrangères français pour le réseau français à l'étranger, je sais pas. Et en fait, on devait représenter l'an 2000, et j'ai choisi de le représenter avec un personnage. Et là, on peut voir que ça date de 1999, en fait. Ça devait passer l'an 2000. On peut voir que c'est vraiment l'origine de Mondial. Et donc, en 99, donc je sais pas, j'ai pas calculé à peu près ce que ça fait en temps jusqu'à aujourd'hui, mais ça fait un bail.
Et là, quand tu parles par exemple d'une commande spécifique sur un sujet, et je dirais presque de l'administration, est-ce que tu fournis des croquis? Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu as le temps de fournir des croquis, des propositions?
Oui, il faut. Dans la presse, là, oui, j'ai fait une proposition, mais on avait assez de liberté. Hein, mais quand je travaille pour la presse, oui, il faut que je donne des refs, il faut que je propose des refs, souvent plusieurs directions. Oui.
Il y a encore une question. C'est toujours le même.
Désolé. Hein. Non, je voulais savoir comment l'outil informatique, enfin les tablettes graphiques et tout ça, avaient influencé votre manière de travailler en passant du traditionnel à l'utilisation de textures, par exemple. Est-ce que ça influence la manière de produire des œuvres?
Oui, bien sûr. Bah oui, ça va énormément influencer sur le fond, d'ailleurs, comme sur la forme, parce que le virtuel, c'était aussi un sujet sur le fond et sur la forme. Enfin, je pense qu'il y a une continuité dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai continué à travailler à l'ordi comme je travaillais avant en traditionnel, c'est-à-dire que j'utilise le blanc du papier ou le blanc de l'écran, et puis je me sers de la luminosité. Par contre, je peux avec l'ordi aller beaucoup plus loin, je peux dépasser tout ça. Je sais pas quoi dire.
Et est-ce qu'à l'époque sur papier, tu jetais beaucoup ?
Jetais beaucoup, non, parce qu'on pouvait pas jeter, parce qu'il fallait rendre le dessin, même si c'était une crotte. Donc, mais c'était assez dur. Quand je devais répondre à des commandes rapides, et c'était pratiquement que des. Enfin, j'étais toujours déçu, moi. J'étais pas content. Et quand je suis passé à l'ordi, ça a quand même beaucoup changé mon. Enfin, j'arrivais à exprimer davantage que ce que je souhaitais au départ. L'image mentale, en fait, était beaucoup plus en accord avec le résultat sur ordinateur. Ou le contraire, enfin. Je sais plus. Ça, c'est un autre de mes petits bouquins. Ça, curieusement, c'est un carnet de voyage que j'ai fait en Afrique. Et je suis parti avec. J'ai retrouvé les techniques traditionnelles. En fait, je voulais faire des croquis sur place avec des feutres. Et ce qui est curieux, c'est que les textures sur ordi que je découvrais, moi, que je trouve ça vachement intéressant qu'on puisse scanner, enfin, incorporer des textures de n'importe quoi, des peaux d'orange ou. M'ont donné envie, en fait, de refaire des textures d'une manière à la main, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais. Et, en fait, par exemple, ce portrait, on a peut-être l'impression que c'est fait sur l'ordi, alors que c'est fait avec du feutre. Et j'ai trouvé des techniques bizarres de mettre du papier de verre sous la feuille, et puis de passer peut-être du crayon blanc, donc il y avait la texture du papier de verre qu'on retrouvait sur. Et tout ça, c'est l'ordi en fait qui m'a redonné. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des ponts entre le traditionnel et l'ordi. Enfin, je trouvais ça intéressant. Donc ça, c'est des croquis que j'ai fait sur place en Afrique. Ça, c'est un travail suite à une résidence à Brasilia. Donc c'était aussi sur. Il fallait travailler sur la ville de Brasilia, et bon, moi j'ai choisi de mêler l'urbanisme, l'architecture, avec le métissage humain, en fait. Comment tout ça s'articulait
Moi je croyais qu'illustrateur c'était un travail casanier, mais là tu es quand même en train de nous parler à peu près de la moitié du tour du monde. lorsque tu pars en résidence, comment ça se passe pour le temps de s'installer, en fait? Le temps de. Est-ce que dès le lendemain de ton arrivée, tu es efficient et tu te mets à bosser? Ou est-ce que. Est-ce qu'il y a des résidences? Tu te dis, ah, même, je suis en train. J'ai mon billet retour demain et j'ai encore rien foutu?
Le problème avec les résidences, c'est que les gens pensent qu'on va travailler là-bas, qu'on y va pour travailler, mais on y va pour se nourrir de quelque chose et puis après, on travaille, parce que sinon, on ne va pas s'enfermer à l'étranger pour travailler, c'est ridicule. Donc à chaque fois, j'ai emmagasiné des images, là, à Brasilia, et puis au retour. Mais en fait, je suis resté longtemps cloîtré, en fait, jusqu'à 35 ans, j'ai bossé, j'ai fait de la bande dessinée comme un moine. Et en fait, quand j'ai eu ces invitations du Japon, c'est là que j'ai découvert le monde, en fait. C'est là que vient aussi mon désir de l'autre et de rencontrer l'autre. Donc j'ai fait rencontre... d'Indiens en Amazonie. Bon, ça, c'est aussi pour Libé. Donc, je découvrais aussi... Tout ça, c'était les débuts. Donc, les transparences, les lumières avec l'ordi, c'était... Enfin, pour moi, c'était génial, même si c'est un peu maladroit, mais... L'emploi des typos aussi, par exemple, qu'on trouve beaucoup dans mon travail maintenant. Tout ça, je le faisais avant d'une manière traditionnelle, mais je me faisais carrément chier, quoi.
Et qu'est-ce qui t'inspire le plus lorsque tu réponds à une commande ? Parce qu'on a l'impression que donc ta carrière, entre guillemets, est ponctuée de commandes et ensuite de grands projets, en fait. Et qu'est-ce qui t'anime le plus, finalement ? Parce que le grand projet, enfin, mondial, par exemple, donc tu m'as expliqué que c'était quand même un travail sur une dizaine d'années, il faut le tenir. Est-ce qu'arrivé à la 500e image, tu n'as pas eu envie de reprendre les 499 premières ? Parce que répondre one shot à une commande, c'est un certain état d'esprit, mais faire que ce soit une bande dessinée ou un gros livre illustré, c'est quand même beaucoup plus long. Donc, qu'est-ce qui t'anime le plus entre les deux, finalement ? Enfin, à part payer le loyer, quoi, je veux dire. Hein.
C'est le travail personnel. Après, il faut trouver des subsides pour vivre de ce travail. Donc, il faut faire des compromis dans la presse, pour la pub. Mais les compromis, en fait, je les ai fait au départ. Et petit à petit, mon travail personnel et le travail de commande, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire que j'arrivais à exprimer ce que j'avais envie de faire. Et puis, plus ça avançait, plus les gens m'appelaient pour des images plus personnelles. Donc, petit à petit, on m'a demandé un style qui me correspondait, un univers qui me correspondait. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, y a beaucoup la presse magazine, les commandes en presse magazine, c'est pratiquement terminé, puisqu'il n'y a plus de support papier, pratiquement, enfin, et plus de budget, surtout. Et j'avoue que ça me manque pas, parce que j'en avais un peu marre des compromis, mais ce qui manque, c'est le côté alimentaire, quoi. C'est comment vivre aujourd'hui de ce travail personnel, de ce travail tout court. Tout évolue et il faut se réinventer, enfin, pour tout le monde, hein, les photographes et compagnie. On doit tous retrouver des moyens économiques de vivre de nos travails. J'ai l'impression de redémarrer comme quand je suis sorti des arts appliqués, en fait. Comment je vais vivre de tout ça ? Et pour moi, c'est un challenge, quoi. Enfin, le bouquin mondial est sorti récemment. J'ai fait des expos, mais je ne sais pas demain de quoi je vais. Il faudrait que je renchaîne sur des bouquins. Mais
est-ce qu'il y a des domaines que tu n'as pas encore explorés qui pourraient exciter ton imagination ? Comme tout à l'heure, on parlait par exemple de l'esthétique du cinéma ou des choses comme ça, ou même le jeu vidéo par exemple, parce que je me dis qu'avec l'identité visuelle forte de ton travail, un projet tel qu'un jeu par exemple, quel que soit le gameplay, mais dans un univers entièrement créé autour de ton univers graphique, serait peut-être potentiellement intéressant. Est-ce que ça, c'est des questions que tu te poses ? C'est des projets qui peuvent naître ?
Non, en fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler à ne pas travailler seul, en fait. J'ai beaucoup de mal à... Oui, c'est une double négation.
Je crois qu'on a compris ce qu'il voulait dire.
Je ne peux pas travailler avec les autres. En plus, je suis très émotif, donc je ne peux pas... Quand je suis tout seul, je peux m'affirmer, mais je ne peux pas... J'ai fait des tentatives, mais j'étais toujours frustré, déçu. On m'a proposé par moment des travaux dans ces milieux-là, mais moi j'ai jamais dit non, mais ça s'est jamais concrétisé, en fait. Et puis bon, je cours pas après, donc.
Et là, tu parles quand même a priori, je dirais, de ton amour pour la non-collaboration. Mondial, c'en est quand même une, puisque de toute façon, l'objet final est quand même un livre, disons, composite entre images et textes avec Alain Damasio. Hier soir, tu nous as un petit peu évoqué cette collaboration. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc, refaire un petit peu le contexte de comment ça s'est passé. Et moi, la question, c'est est-ce que l'un a influencé l'autre ? Comment ça s'est...
Non, parce qu'Alain Damasio, il est arrivé vraiment à la fin du... Enfin, j'avais trouvé mon éditeur belge déjà, et puis avec l'éditeur, on a pensé qu'il fallait enrichir le livre de texte. Ça serait... Et donc, on a cherché un écrivain. J'ai contacté Houellebecq, j'ai contacté Despentes et d'autres. Et puis ça n'a pas fonctionné. Et puis à un moment, j'avais un projet d'expo en Suisse, à la Maison d'ailleurs. Et le commissaire, Marc Attala, connaissait Alain Damasio. Il a pensé que ça pouvait bien coller avec mon univers. Moi, je n'avais jamais lu, je le connaissais de nom. je connaissais Notoriété, mais j'avais jamais lu de texte de lui. Donc j'ai été voir sur Internet, j'ai vu ses conférences aussi qui sont vachement intéressantes sur des sujets qui me touchent aussi. Et puis je l'ai contacté, j'ai envoyé les images et puis il a dit top, il a dit ok tout de suite. Et on s'est mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas légender, évidemment. Je lui ai donné presque 300 pages donc, d'images. Et puis l'idée, c'était de donner une dimension supplémentaire. Ne pas légender les images, ça aurait été un peu bête. Et donc, il a augmenté le livre en allant un peu plus sur le clonage, en parlant un peu plus du clonage humain. Moi, je ne l'avais pas vraiment abordé. Et puis en donnant une dimension qui y était un petit peu, que je voulais, plus politique, en fait. C'est ce que j'aimais aussi dans le travail d'Alain Damasio, c'est que il est engagé politiquement et je pense qu'on était à peu près sur la même idée du monde.
Oui, avec les autres auteurs cités, ça n'aurait pas du tout donné le même livre, finalement.
Non. Bah, en fait, on cherchait un auteur un peu médiatique quoi, pour essayer de porter le livre. C'est toujours le problème. C'était un bouquin un peu bizarre et on s'est dit qu'avec un écrivain qui aurait eu un petit peu de notoriété, ça aurait passé. Houellebecq m'a répondu gentiment, mais il trouvait ça trop déprimant en fait. Il était très déprimé à cette époque-là déjà. Et
il a réussi à faire déprimer Houellebecq, c'est quand même pas mal.
Et en fait, il a pas voulu s'engager, mais bon.
Et alors même disons dans là c'est peut-être presque une question pour Alain Damasio, mais quand il se pose la question de où est-ce que je vais poser ma phrase, parce que le livre c'est quand même un patchwork composé en fait, hein, y a un énorme travail de maquette, une fois que tu vois arriver j'imagine l'équivalent des 300 pages de texte, l'éditeur il fait quoi avec ça,
il n'a pas fait 300 pages de texte, hein. Il n'aurait pas eu le temps d'ailleurs, il était quand même toujours très sollicité. On a choisi d'aller dans le sens aussi que j'avais insufflé, c'est-à-dire que moi je parle du corps marchand, du corps marchand de la marchandise, donc il est allé dans, il a trouvé des slogans en fait, un petit peu publicitaires, un peu pour vendre aussi, et moi ça me plaisait beaucoup, qu'on retrouve d'ailleurs sur dans l'expo. Et puis il a fait quelques doubles pages de texte, mais il y en a deux ou il y en a six ou huit, guère plus quoi. Et par contre c'est des petites bribes il m'a donné les images auxquelles ça pouvait correspondre, mais il m'a laissé le choix de pouvoir les changer en fait. Et j'ai repris ces textes et j'ai choisi de les mettre sur certaines images que lui il n'avait pas forcément choisi parce que je trouvais que c'était judicieux. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
Et dans ton travail en général et aussi dans ce livre et a fortiori dans l'expo, il y a quand même une forte dimension érotique aussi, je trouve, que ce soit la relation à l'autre ou au cyborg, ou même, disons, par rapport aux images traditionnelles que tu mets en scène, par exemple là, les tatouages en question. Est-ce qu'il y a un livre caché quelque part de Bebdom que érotique, par exemple, ou
Non.
J'ai l'impression que c'est un sujet, disons, entre guillemets, dans le cadre de tes images, autour duquel tu tournes depuis longtemps. Alors, est-ce que tu vas t'y arrêter un jour ou est-ce que c'est déjà fait et que
je préfère être dans la suggestion comme ça et la sensualité, un érotisme plutôt que... La pornographie, j'ai pas envie de montrer mes fantasmes. Non, c'est pas.
Il y en a quelques-uns dans la boîte, non ?
C'est gentillet, hein, quand même. Donc là, je suis parti sur le projet mondial. Donc c'est les trois personnages de base que j'ai fait en, disons, j'ai démarré donc en 2000 ou 2005. Tout ça, ça date de.
Il y a une question.
Oui, c'est pour revenir un petit peu aux collaborations. Celle avec Jean-Pierre Dionnet, en fait, j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé, les BD que vous avez fait ensemble, est-ce que c'était vos projets auxquels lui s'est greffé, ou est-ce que c'était l'inverse, enfin, comment ça s'est passé un petit peu?
En fait, j'étais, comme je l'ai expliqué, j'étais très réticent pour travailler avec un scénariste. Hein, et Jean-Pierre Dionnet l'a bien senti. Donc, il travaille comme ça avec tous ses dessinateurs, c'est-à-dire qu'il s'adapte au style, à l'univers de chacun. Et il m'a proposé un moment, on a pensé que ça serait bien que je travaille. J'avais sorti mon premier bouquin, qui était des petites histoires, mais mal ficelées. Et donc, on a pensé qu'un one shot, mais avec un long récit, avec un scénariste, ça serait bien pour ma carrière. Et donc on s'est lancé, mais moi je suis pas parti très très enthousiaste, mais finalement j'ai fait ce bouquin, mais très vite je suis retourné tout seul, travailler tout seul. Je sais plus quelle était la question, c'était ça.
S'il y a d'autres questions? Peut-être des questions un petit peu plus techniques autour de Photoshop, l'utilisation, parce que tu as quand même une esthétique qui est vraiment déjà particulière, identifiable assez facilement, qui pour moi, je trouve, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, que tu as gardé ta manière de travailler en étant passé ensuite sur Photoshop, mais je trouve que même si tu as parlé de feutre ou de matière ou de choses comme ça, tu as quand même, je trouve, une approche très esthétisante en fait du travail, par l'aérographe aussi, hein, le côté je vois en premier un dégradé plutôt qu'une image avec une couleur unie ou des choses comme ça. Tout est sujet à dégrader, on dira. Donc du coup aujourd'hui dans Photoshop, ton line-up est toujours le même, ou est-ce que de temps en temps vraiment tu t'amuses à partir sur une autre manière d'envisager l'image, quitte à ne pas la publier ou ne pas la montrer ou faire des essais comme ça dans tes heures perdues?
Des essais, on en fait forcément avec le numérique, parce qu'on peut passer par des étapes tellement différentes. Je ne sais pas ce que veut dire line-up, mais j'imagine que c'est...
La méthode de travail, quoi, je dirais, entre les outils que tu utilises, la brosse, par exemple. Est-ce que tu crées tes brosses, ou est-ce que c'est l'outil lasso que tu utilises?
Non, je travaille d'une manière très basique avec, je le disais tout à l'heure, je suis passé du traditionnel au numérique, mais je travaille pareil en numérique, c'est-à-dire j'ai une feuille blanche, j'ai un stylet, et puis je dessine, je mets ma couleur comme je faisais avant, en fait.
Et alors juste, tu travailles avec une Cintiq par exemple, donc
non,
en dessinant sur l'écran,
je sais pas ce que c'est.
Ou est-ce que c'est la traditionnelle tablette, entre guillemets?
Oui, j'ai une Wacom et toujours une petite tablette, quoi, la 5. J'ai du mal à évoluer parce que la technique me rebute, donc j'essaie de garder le plus longtemps mon matériel.
Quand on voit ton travail et qu'on entend que la technique te rebute, paradoxal, quoi. Mais
bon. C'est très instinctif, hein, mon travail, sur ordi, c'est travailler pareil qu'un dessin traditionnel, quoi. Alors évidemment, de petit à petit, je trouve des trucs sur Photoshop, je vois qu'il y a des choses plus simples à utiliser, mais que j'avais moi trouvé tout seul, mais qui me prenaient énormément de temps. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Et je vois qu'il y a un outil que j'avais presque inventé tout seul avec différentes manips et qu'on trouve mais je l'utilise, à mon avis, j'utilise Photoshop à 30% de ses capacités, quoi, simplement.
Oui, j'imagine que ça doit être le cas de beaucoup de graphistes, quand même.
Voire 15%, je ne me rends pas compte. Voilà, c'est toujours des commandes. Ça, c'est de l'alimentaire pour la presse économique.
Ah pardon, et une question.
Oui, bonsoir.
Merci.
Pardon. Je voulais savoir, ça fait bizarre de s'entendre. moi je suis vos travaux depuis une quinzaine d'années maintenant, et j'ai bien vu l'évolution de vos personnages que je trouvais assez anguleux, dans les années 80, et en le passage au numérique, vous avez des personnages beaucoup plus ronds, notamment au niveau des yeux et des visages globalement. Est-ce que c'est lié au numérique ou c'est un changement graphique qui aurait été fait quand même de manière traditionnelle?
Ça, je ne m'en rends pas compte. Ça, si tu as décelé ça, je ne sais pas. Peut-être, je ne m'en rends pas compte. Plus rond. Oui, mais on peut le voir dans l'affiche du festival. Le visage de la fiche est quand même assez anguleux, en fait. J'essaie de styliser. comme si je partais d'un d'une modélisation 3D en fait, avec je sais pas comment dire ça, mais là on peut voir par exemple c'est les facettes du visage sont très marquées, quoi. Trop marquées, c'est pas très réaliste, mais j'ai toujours bien aimé ça en fait. Je sais pas. Pour Libération toujours.
Il y a une autre question.
Oui, c'était juste une remarque et une illustration de ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la crainte de la technique. Sauf erreur, vous avez fait une illustration dans Métal Hurlant pour illustrer un article sur les auteurs de science-fiction cyberpunk. Et il y a une illustration qui représente entre autres William Gibson, l'auteur de Neuromancien. Et William Gibson a conçu tout son univers qui est devenu la matrice en quelque sorte du cyberspace en science-fiction, mais il l'a conçu sur une vieille machine à écrire. Il avait peur de l'ordinateur. Vous êtes un peu dans cette ligne finalement.
Oui, c'est vrai, je me rappelle de cette illustration. J'avais représenté une machine à écrire un peu bizarre. Du coup, je me suis perdu moi-même. Je ne sais plus ce que c'était. C'était quoi ?
Tu étais le William Gibson des arts graphiques.
Ça, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est.
Bonsoir.
Une autre question.
J'avais une autre question. Il portait plutôt sur le fond. On a vraiment le sentiment que vos travaux alimentaires ont beaucoup influencé l'œuvre mondiale que vous avez aujourd'hui sur la table, ou en tout cas en présentation. Dans quelle mesure est-ce que ça s'est alimenté dans votre réflexion et dans votre passage au digital ?
Oui, c'est vrai. Oui. Tout s'est auto-alimenté, en fait. Le travail alimentaire a alimenté le travail perso, et le travail personnel, évidemment, le travail alimentaire. J'ai bossé, par exemple, longtemps pour la presse économique. C'était des sujets qui me bassinaient royalement, et curieusement, je devais trouver des... On parlait, c'était l'émergence d'Internet et toute cette technologie. Et du coup, je suis rentré à faire des images sur Internet et ça m'a passionné, en fait, l'idée du virtuel. Je parlais tout à l'heure du fond et de la forme. C'est vrai que je rentrais dans un univers nouveau qui était le virtuel. Et tout ça, c'était passionnant. Ça a influencé aussi bien le fond comme la forme, oui.
C'est vrai que sur les sujets, tu dis que certains sujets te barbaient un petit peu. Moi, j'aurais envie de voir presque plus de couvertures de disques ou de musique. Est-ce que tu as fait d'autres choses dans ce domaine-là ?
Non, pas beaucoup.
Que Bachung,
non. Bachung,
quasiment.
Non, quelques-unes, mais non. Ça, par exemple, c'est... Voilà, je devais représenter l'androgynie, je crois, et en fait, c'est une image qu'on peut retrouver en partie dans Mondial, que j'ai faite bien avant le projet, en fait. Et je me suis servi de cette image pour dans Mondial, parce que je trouvais que c'était... Alors, je l'ai retravaillé, je ne l'ai pas gardé telle, mais voilà, et comme quoi...
Une question par ici.
Bonsoir. C'est juste par rapport à ce que vous nous montrez et à la galerie qui est juste à côté, il y a une vive critique de la société de consommation et donc je me demandais si le fait de travailler pour la publicité a influencé cette thématique-là.
Tu veux dire que
tu as vendu ton âme au diable.
J'en ai croqué, hein, puisque à l'époque les budgets de publicité étaient énormes, quoi. J'ai jamais beaucoup travaillé pour la publicité, malheureusement, mais à chaque fois que j'ai travaillé un petit peu pour la pub, c'était des budgets dingues, quoi, à l'époque. J'ai beau jeu de critiquer la société, mais j'en fais partie, en fait. Hein. C'est vrai que si je peux exprimer mon travail de cette manière, c'est aussi dans cette société capitaliste aussi. Il faut être conscient qu'ailleurs, j'aurais pas pu m'exprimer de la même manière. Tout ça, c'est un peu ambigu. Et
dans tes publications, ta relation, que ce soit à des éditeurs ou à des commanditaires de presse ou autre, est-ce que depuis les années 90, est-ce que tu as senti un changement de la perception de ton travail par rapport, pas forcément qu'à l'érotisme, mais à la représentation du corps humain? Parce que Là, on a vu, bon, cette année, l'affiche a suscité un petit peu de discussion autour de la représentation de la personne humaine. Ton travail est quand même très axé là-dessus. Tu as un rendu qui est tellement hyper réaliste que c'est presque effectivement un cliché de l'avenir, quoi, je dirais, ou un constat d'une réalité que tu aurais pu observer ailleurs. Est-ce que les commanditaires, je dirais par ce qu'on constate un petit peu, quoi, une société un petit peu plus prude qu'avant, est-ce que tu as eu ce type de retour sur ton travail, je dirais, est-ce que tu es plus libre aujourd'hui qu'avant dans ton travail, quoi?
Je ne sais pas trop. Non, je pense qu'il y a un retour de la pudeur qui est terrible. On pouvait faire des choses dans les années 80-90 qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a une autocensure qui est dingue. En fait, on s'autocensure avant même de proposer l'image parce qu'on sait que ça ne va pas passer. Et du coup, tout est réduit en fait. Malheureusement. Alors, évidemment, il y a encore des espaces où on peut s'exprimer, mais je pense qu'il y a une autocensure plus qu'une censure qui s'est faite sur chaque individu. Et,
oui, c'est un peu sans doute ton plus... illustration, là, c'est un petit peu ça, finalement. Le Big Brother, c'est nous.
Bah, oui, c'était marrant. Ouais. Ça, c'est un bouquin un petit peu qui parle de mon travail chez Delcourt, une petite dizaine d'années. De rétrospective de...
Une question au premier rang. Allô ? Il y a une...
Bonsoir, on connaît des dessinateurs qui font tout sur un ou deux calques, donc très près du direct, du papier, quoi, quasiment, et puis d'autres sur 50 calques et 12 dossiers dans Photoshop. Vous êtes où, vous, dans cette...
J'ai beaucoup de calques, je pense. Ouais, j'ai beaucoup de calques. C'est-à-dire qu'à un moment, l'image pèse très lourd aussi parce que les calques se rajoutent. Et donc, je suis obligé de recréer une nouvelle image, d'écraser l'image et puis de repartir sur l'image et de repartir sur des multiples calques. Oui, je suis plutôt. Ouais. Merci. À rallonge, oui. Bah c'est l'idéal du numérique, en fait, hein. On peut avoir comme ça sur un support qu'on peut bouger, on peut revenir, on peut l'effacer. Et ça, avec la lettre traditionnelle, quand je travaillais sur papier et que je devais faire une retouche sur une couleur ou sur une main qui n'allait pas, il fallait découper un papier, le coller dessus, et c'était dégueulasse. Alors qu'aujourd'hui, c'est une perfection totale, quoi.
Est-ce que tu fais encore, par exemple, des séances de, je sais pas, de croquis, je sais pas, de réunions à Auvers-sur-Oise avec les copains artistes et autour d'un nu ou...
Non. Oui, j'aimais bien le croquis comme ça, mais non, je croque un peu. Là, je suis parti en Asie et je suis retourné dans les temples, croquer un peu des temples zen. J'aime bien. Et je fais des croquis dans le métro, un petit peu dans le train, notamment au Japon ou en Chine, parce que j'aime bien le visage asiatique. Donc c'est un régal là-bas, de voir les profils, les profils perdus. J'adore ça, en fait.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui, entre guillemets, t'impressionnent, ou tu dis, tiens, cette esthétique-là, j'aurais aimé la développer il y a quelques années, ou waouh, est-ce qu'il y a des boulots qui te laissent... Enfin,
oui, sans doute. Mais là,
dans l'imaginaire ou ailleurs. Hein,
ça ne me vient pas trop. Il aurait fallu que j'y réfléchisse avant, là, je ne sais pas.
Comme quoi, on n'avait pas révisé les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Ça, c'est un travail que j'ai fait il n'y a pas si longtemps pour Mugler, en fait. Donc là, c'était un budget. J'ai dû créer une petite BD de 10 pages. Et puis, il y avait un visuel général pour un parfum Mugler. Et donc là, financièrement, je suis tranquille pour 6-8 mois, quoi.
Oui, c'est plus intéressant que les couvertures de science-fiction pour les éditeurs.
Ah bah oui, probablement. Ouais. Surtout que là, c'était quand même un projet chouette. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé aussi... Il fallait créer un personnage un peu mutant aussi, un peu hybride. Donc c'était complètement dans sur le travail que je faisais en même temps. Donc... Voilà, ça c'est des travaux personnels aussi sur l'écran en fait. Sur le virtuel et l'écran et... Là, ça, vous, vous avez vu l'image, ça c'est toujours pour Thierry Mugler. Des couvertures. Bon, beaucoup de travaux sur l'écran, donc ça c'était une commande pour Libé, je crois, ou... Et en fait, plus je travaillais sur le virtuel et sur Internet, plus on m'appelait pour ces sujets. En fait, c'est... au départ, on m'appelait parce que j'étais dans l'économie, on m'appelait sur des sujets économiques. Et puis, petit à petit, quand mon travail évoluait vers le numérique, vers Internet, on m'appelait pour comme si j'étais un spécialiste de l'écran, de l'image numérique. Enfin bon. Théorma 21, tout ça c'est pas très, très vieux. Des images des visages qu'on peut retrouver dans Mondial en fait. Donc on peut voir que tout se mélange à ce moment-là. Ça c'était pour le Nouvel Obs, je crois. Donc toujours le numérique, toujours le livre numérique, les univers numériques, voilà, ado accro, accro à l'écran, enfin. Ça c'était un peu spécial pour.
Et est-ce que tu joues ?
Non, pas du tout.
Non, puisqu'on voit passer les sujets, je me dis est-ce que.
Non, absolument
est-ce
pas.
Est-ce que tu as des loisirs sur l'écran ?
Non, absolument pas. J'ai jamais fait un jeu vidéo, ça m'attire pas du tout. Je connais pas du tout cet univers en fait. Ça, c'est une couve pour Télérama. Voilà. Un petit peu de couverture pour l'édition, mais très peu finalement. On m'appelle assez peu souvent pour ça. Donc toujours des sujets sur c'est les nouvelles technologies, le numérique, l'Internet.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va prendre les dernières questions. Une question. Donc on va voir encore beaucoup de travaux de Bebdom dans la presse quand même à venir, même s'il y a moins de papier.
Non, je pensais que ça durerait encore une petite dizaine d'années, mais curieusement, c'est très rapide. Quoi. On n'a pas le sentiment que c'est aussi rapide, mais tout se déroule. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi, hein, avec le monde... Et le changement climatique, hein, j'ai l'impression qu'on est complètement halluciné par le virtuel et qu'on ne voit pas la réalité. Mais la réalité, c'est que ça avance très très vite. Mais on n'en a pas conscience.
Ça va être notre débat. Une question.
Et à part les couvertures, vous faites plus de bandes dessinées ?
Non, j'ai arrêté. Non. Non, parce que je me suis perdu en fait. Je crois que je l'ai dit au départ. Le récit m'intéressait assez peu, l'histoire m'intéressait peu. Ce que j'aimais, c'était créer des univers, des mondes. Et donc, finalement, on voit qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise parce que j'aime créer un univers à partir de peut-être d'un visage simplement. Je suis beaucoup plus à l'aise que recréer des décors dans la bande dessinée, des histoires qui me fascinaient en fait.
Et est-ce qu'il y aura un mondial numéro 2 ?
Un manga ?
Un mondial numéro 2 ?
Non. Je pense pas, non.
Non, pas dans les 10 prochaines années ?
Non. Je sais pas du tout sur quoi je vais repartir. Enfin, si j'ai une petite idée, mais... C'est un peu compliqué à repartir après un projet qui a duré comme ça une quinzaine d'années. C'est compliqué.
Bon, ben, on va se revoir bientôt alors pour que tu nous en dises un petit peu plus sur ta...
Ouais. On peut finir sur cette image, c'est-à-dire qu'on m'a demandé une couverture pour le transhumanisme. Et... Alors je travaillais sur Mondial, donc j'ai utilisé des éléments de Mondial et j'ai fait un personnage pour le Nouvel Obs. Et ce personnage que j'ai créé pour le Nouvel Obs, à partir de Mondial, se retrouve dans Mondial en fait.
La boucle est bouclée. Merci à toi de nous avoir permis de passer un temps en ta compagnie et dans les 30 dernières années d'une vie artistique. Merci, continue bien.
Merci Gilles.
Merci à vous.